Maintenant, je vais passer à une question de Cécile, tournée parisienne. Laurent, Corinne, quand viendrez-vous sur Paris et l'Île-de-France? Les encollages moléculaires vont bon train, en vrai et à distance, sur toutes sortes de niveaux. Mais cela demande un soutien constant vu la masse de forces envolantes drainées par et qui transitent dans cette région. Ça secoue beaucoup et ça nécessite un paquet d'énergie sans faille pour garder de petites fenêtres d'ouverture. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ce point de France? Alors, c'est simple. La plus grosse galère qu'il puisse y avoir en France, c'est Paris et l'Île-de-France. Pourquoi? Parce que c'est la zone de plus forte concentration de la population, déjà. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième, c'est que, pour l'instant, l'idée était surtout, on va dire, d'arrêter de nourrir, de se faire polluer par le sud. Hein, c'est-à-dire que les grosses forces envolantes arrivent du sud, principalement. Enfin, je veux dire, avaient leur place forte dans le sud. Donc, ceci étant fait, nous allons, on va dire, resserrer les mailles du filet. Hein, donc, nous avions déjà fait un certain travail en Bretagne, nous avions fait un certain travail, on va dire, dans l'ordre de la tournée 1, mais très faible, concernant l'Est, etc. Mais tout ceci a pour objectif de resserrer les mailles. C'est-à-dire que nous allons, au cours de cet hiver et du printemps, faire, on va dire, des embarqués d'abord dans tout ce qui est, on va dire, la façade atlantique d'une manière ou d'une autre, puisque entre, on va dire, la Bretagne et les Pyrénées, on n'a pas fait grand chose, donc là il va falloir bétonner un tout petit peu, mais ça devrait aller assez vite puisqu'il n'y a pas de très grosse ville. Je veux dire, grosso modo, bon, si je mets un peu Nantes de côté, vous avez Bordeaux, et puis après c'est tout, quoi. Je veux dire, vous avez c'est des peccadilles après, ce qu'il y a. Donc, nous allons donc faire un travail rapide, puisque comme nous sommes dans cette région d'Angoulême, de monter jusqu'à Nantes et de descendre, on va dire, à Bordeaux, voire un peu plus bas, c'est pas le problème en termes de temps. Hein. On est quoi à 2 heures de Bordeaux, on est quoi par exemple, pratiquement à 2 heures aussi de Nantes. Hein. Donc, c'est là où on va flinguer ça. Et ensuite, nous allons diriger nos efforts vers le centre de la France. C'est-à-dire, on va remonter grosso modo la Loire. Hein. C'est-à-dire que si une fois qu'on aura fait Nantes, on fait Angers, et puis après, on continue. Hein. Angers, Tours, après je sais plus, après ça passera jusqu'à Orléans. Donc nous allons faire petit à petit toute cette zone-là pour littéralement entourer la région parisienne. De faire que il y aura une grosse poche, on va dire de noirceur, certes, mais l'objectif est quand même d'envoyer pas mal d'eau encodée. Parce que dites-vous bien que l'eau qui est encodée, c'est pour ça que nous allons regarder tout le bassin hydrographique de la Seine, principalement, pour faire l'encodage à distance. Hein. Je vous rappelle que c'est, je vous parle de mes déplacements physiques, mais l'encodage à distance, lui, pourra se faire en fonction des nécessités. L'objectif, c'est d'encoder au maximum la Seine et tous les affluents de la Seine. Pourquoi? Parce que la Seine va littéralement par son courant, drainer, embarquer toute la merde direction, on va dire, la Manche. Alors, pour les habitants du Havre, ça va pas être forcément génial, mais il faut dire que c'est très noir là-bas, donc c'est pas un problème, et ça ira vers une zone quand même qui est très 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 fortement chargée en termes d'énergie, pas très bonne. C'est donc ce qu'on appelle le Cotentin avec la Hague. Il est évident que là, c'est un point noir assez important. Donc, on ne peut pas y aller comme ça au pif, on débarque à Paris, on encode 3 trucs et on repart. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, il faut déjà, comme on dit, affaiblir les positions. Et une fois que ça sera suffisamment affaibli, c'est un siège, tout simplement. Et, on avancera. Donc, on va faire ce qu'on appelle comme une tournante, hein. C'est-à-dire que on remontera à ce moment-là vers l'est. Donc d'Orléans, après on filera, on va dire, en direction le lac Léman, grosso modo, et on remonte Strasbourg, etc. C'est-à-dire, le but est d'encercler. Car, comme je le disais, si on veut arracher cette peau, là où c'est le plus fortement fixé, c'est à Paris. Et donc ça, pour arracher celui-là, il va falloir bien avoir décollé la peau partout. Hein. Donc, il faut savoir que tous ceux qui viennent sur Paris sont des gens qui habitent la France en règle générale, mais aussi l'étranger. Donc, les involuants, on va dire, qui sont sur Paris et la région parisienne, reçoivent quand même beaucoup de sans frais. Car chaque bus, chaque Airbus de touristes qui vient, c'est du sans frais. Donc, ça veut dire qu'ils sont constamment alimentés, constamment alimentés, constamment alimentés. Et donc, c'est pour ça que, comme tu le dis, Cécile, eh bien, garder une petite fenêtre d'ouverture. Je sais, c'est pas évident, mais c'est un travail, on va dire, de fond et de sape. C'est pour ça que encoder, on va dire, l'eau au maximum, tous les affluents, c'est la première chose à faire. C'est la chose la plus essentielle à faire. Parce que le bassin hydrographique, une fois que la flotte va être encodée, ça va emmerder quand même déjà du monde. Il faut affaiblir les positions, affaiblir les positions. Voilà. Donc, je ne débarquerai pas à Paris dans un mois ou deux, mais nous allons pouvoir, dès que nous avons nos capacités de pouvoir tirer à distance, on va dire, faire des encodages à distance atomiques, mais plus ciblés, là, mais en nombre, c'est sûr qu'on va faire comme fait n'importe quelle armée quand ils veulent aller conquérir un autre pays, c'est d'y aller avec les bombardiers, quoi. Hein. On y va, tu lâches les bombes et tu reviens, quoi. Mais chaque bombe fait son travail. Donc ça va être plutôt un travail comme ça. On va pas pouvoir envahir tout de suite la région parisienne. C'est une place forte, beaucoup trop forte. Mais n'empêche que votre travail, hein, c'est comme un travail de résistance. Vous êtes des résistants. Donc c'est sûr que ça peut être pénible, mais c'est ainsi. Vous êtes à cet endroit-là, et vous êtes de bonne volonté, alors faites. Mais bon, sachez que vous avez notre appui. Vous avez notre appui. Hein. Voilà, alors maintenant on va passer à une autre question concernant la neige, l'encodage et UDLM. Une question d'Anef. Lors de la webconf du 4 octobre, tu dis « la neige est isolante », ce que je confirme vivant au Québec. La neige ne fera pas propager l'encodage. Alors donc, les EDLN sont coincés l'hiver au Québec. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les EDLN vivent en 5D6D. Or, la 5D6D n'a rien à voir avec la configuration de la 3D4D. C'est-à-dire que si en 3D4D, par exemple, tu as une montagne, chez les EDLN, c'est pas dit qu'il y a une montagne. Ça peut être une plaine. Donc, ils ne voient pas la même chose que nous. Et c'est pour ça que nous avons des fois même assez régulièrement, des soucis quand on leur demande de localiser, entre guillemets, les lieux où on doit intervenir. En fait, ils n'ont pas de possibilité de nous indiquer clairement les choses, parce que d'abord, tous les noms que nous utilisons pour eux sont inconnus. Quand vous dites Lyon, Lyon, ça leur dit absolument rien. Ensuite, la seule possibilité qu'il y a, ce sont les cours d'eau et les étangs. Car les cours d'eau et les étangs, eux, ils arrivent à les percevoir. Hein, puisque c'est une énergie qui circule, enfin, bon, ils arrivent à percevoir. Et donc, quand nous avons un rendez-vous à faire avec des êtres de la nature, sur un point géographique qu'on n'a jamais mis les pieds, généralement, on se fixe par rapport aux cours d'eau et aux étangs et aux différents croisements. Et généralement, ils ont quand même quelques experts qui arrivent à superposer les cartes et à peu près à déterminer de quel endroit on parle. Mais voyez que c'est pas simple. Hein. Nous vivons vraiment dans des univers parallèles et ce que tu vois toi au Québec, c'est pas ce que voient les EDLN. Nous on voit la nuit, eux ils la voient pas. Toi tu vois le froid, eux le froid ça leur dit rien. Comme dire l'autre, ni chaud ni froid, ni jour ni nuit. Donc c'est sûr que ça change un peu le relief quand même. Par contre, je comprends que la glace, quant à elle, c'est ok, sauf s'il y a un bon couvert de neige, n'est-ce pas? La glace, de toute façon, s'il y a de la glace, de toute façon, le code passera. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a encodage et encodage. Donc l'encodage à distance que nous allons faire, il est prévu dans nos tablettes de faire un encodage, on va dire, des plus grands lacs qui se situent on va dire, pas de par le monde, mais on va dire principalement aux Amériques. Hein, donc nous avons déjà un gros travail à faire du côté du lac Titicaca, mais il est prévu dans mes tablettes de s'attaquer à la région des Grands Lacs là-bas qui fait la frontière entre le Canada et les États-Unis. Pour cela, il nous faut des conditions, pouvoir contacter les gardiens des vortex maritimes, hein, et pouvoir ensuite tirer. Alors, vous imaginez que localiser un vortex sur une étendue de flotte, c'est très dur de s'y croire. C'est très dur. Donc, c'est pas évident, mais c'est faisable. Hein. Nous avons bien réussi à faire le Léman, mais le Léman, c'est quand même pas la grandeur des lacs qu'il y a du côté de chez vous là-bas, quoi. Donc, mais chaque chose en son temps, nous allons y arriver. C'est juste une histoire de temps, comme on dit. Alors, cependant, l'eau des rivières ne gelant pas jusqu'au fond, le débit est comme ralenti. N'y a-t-il pas alors une montée en puissance de l'encodage? Si, il y a une montée en puissance de l'encodage. Quand l'eau est ralentie, le débit, bien sûr. Mais dis-toi bien que, quand même, quand nous allons encoder l'Arctique, quand l'Arctique va fondre, il y a quand même un paquet de lacs du Grand Nord qui vont se faire encoder d'une manière ou d'une autre. De toute façon, on n'oubliera pas toute cette partie-là, parce que c'est un article que je voulais écrire, mais je le ferai pas parce que j'ai pas le temps. C'est que, rappelez-vous qu'il y a en fait un triangle super méga important, et ce triangle, c'est globalement Mont-Saint-Michel, lac Titicaca et comment ça s'appelle, le mont Shasta. Et donc, si je pouvais vous montrer une image, eh bien, si vous regardez, ça fait un triangle. Et si vous reprenez quel était le continent originel, vous savez, la fameuse Pangée, regardez où se situe la France, le mont Shasta, et le truc qui vous verrez, un triangle quasi parfait. Donc, c'est, on va dire, le triangle de base qui, on va dire, alimente toute la grille cristalline. Donc, nous nous sommes occupés de celui du Mont-Saint-Michel, nous allons nous occuper de celui du lac Titicaca, et nous allons, bien sûr, faire tout notre possible pour que, du côté du Mont Shasta, un certain nombre de choses soient faites. Mais comme nous savons que l'un des pays les plus influents sont quand même en Amérique du Nord, ils ne vont pas se laisser faire. Hein. Donc, c'est dans les tuyaux, il y a des choses qui vont se faire. Voilà, donc comprenez bien que l'action qui est menée actuellement, c'est une action qui va s'étaler sur plusieurs années. C'est pas dire ça y est, l'hiver est passé, c'est fini. Donc il va y avoir effectivement en 2015 de profonds changements. 2016 continuera ces changements. L'année fatidique sera véritablement 2017. Donc 2015-2016, j'ai déjà écrit là-dessus. J'en ai déjà parlé aussi à mes mini-conf, pas mal. Donc, laissons le temps venir et surtout, faisons en sorte que chaque petit poussé puisse monter en puissance et bénéficier, on va dire, des rampes de lancement et des aides de lumière de la 7D-12D. Hein? Je reviendrai sur ces questions un petit peu plus tard parce que j'ai lu qu'il y avait des questions là-dessus. Alors, j'ai une question d'Isabelle. Avez-vous encodé le Vernon, finalement? Alors, je sais absolument pas où il est. Donc, je peux pas répondre à des questions aussi précises. Rappelez-vous qu'on a vu des kilomètres et des milliers de villes et les noms de rivières. Donc, la rivière qui est à côté de chez vous, vous la connaissez par cœur, mais imaginez que je vous en mette 1500 sous les yeux. En 3-4 mois, vous allez me dire, est-ce que tu te rappelles que je suis désolé, là, j'ai pas la mémoire pour cela. Une question de Gino. L'espacement entre les points d'encodage est-il important? Faut-il qu'il soit assez rapproché ou plusieurs kilomètres suffisent? J'ai pu remarquer une certaine protection lors des encodages. Est-ce vraiment le cas? Ce qui m'amène à penser, les encodeurs, petits poussés, sont-ils marqués, genre panneau éthérique? Bien, alors, il est évident que Gino, comme je suis passé lors de la tournée 1, c'était les tout débuts, et il y avait donc un certain nombre d'informations que je n'avais pas encore à l'époque et qui, au fil du temps, son lit, tout simplement. Parce qu'à fort à mesure que l'opération Petit Poucet s'est développée, il a fallu forcément, faire avancer les choses sur tous les plans. Or, bon, je l'ai déjà dit donc à beaucoup de gens de la tournée 2, voire de la tournée 3, effectivement, tous les gens qui boivent de l'eau encodée, comme dirait l'autre, subissent un décrassage, un nettoyage de leur programme involuant, en commençant généralement par la 12D et qui va descendre de plus en plus dans la matière. Donc bien sûr, vous avez déjà quelques, on va dire, effets hein, dans l'aspect 3D, 4D, mais dites-vous bien que c'est quand même c'est le fond de la cuve en termes dimensionnels. Donc l'encodage va surtout faire un travail d'abord dans les hautes sphères et petit à petit, comme dirait l'autre, c'est comme si la cuve se vidait, quoi. Mais elle se vide par le haut, par évaporation, quoi. Donc le truc, c'est que les gens qui boivent de l'eau encodée deviennent beaucoup plus lumineux, éthériquement parlant, c'est-à-dire que les êtres de la nature le voient tout de suite. Le voient tout de suite. Celui qui boit de l'eau encodée est tout de suite repéré. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus lumineux que les autres. Alors ça, c'est déjà une chose. La deuxième, c'est que les involuants apprécient quand même avoir des bons petits plats, hein, c'est-à-dire aiment bien venir bouffer là où il y a de la lumière. Alors bien sûr, ils sont sombres, mais ils aiment bien la lumière quand même, mais pas trop. Hein. Donc le truc, eh bien, l'objectif était quand même, quelque part, de ne pas engraisser les involuants sur le dos des petits poussés. Donc il a été décidé, en haute sphère, que tous les gens qui boivent de l'eau encodée reçoivent comme un voile sur eux, faisant qu'ils ne peuvent pas être sucés par les autres. Et donc ceci a amené, on va dire, un certain nombre de réactions chez des gens qui sont proches, c'est-à-dire que vous voulez de l'encoder, mais les autres ils le voient pas, et vous sentez qu'ils sont nerveux, qu'il y a quelque chose qui joue pas, parce que inconsciemment, ils ne peuvent plus vous sucer. Et ça amène des fois quelques soucis. Donc, oui, tous les gens qui boivent de l'eau encodée reçoivent des aides. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui agissent, c'est-à-dire prennent des cailloux et vont les balancer à droite à gauche. Donc là, effectivement, il y a une aide supplémentaire qui est apportée. C'est-à-dire que toute personne reçoit, l'assistance d'un EDL, de 7D12D, qui est là pour, entre guillemets, le défendre. C'est pour ça que si de temps en temps, quand vous êtes en action en petit poussé, eh bien, si vous sentez que vous êtes assisté, qu'il y a un truc, c'est pas des conneries, vous l'êtes véritablement. Ensuite, il y a même un truc qui va plus loin, c'est-à-dire que si vous avez effectivement un certain nombre de cailloux avec vous, et la garde peut s'étoffer. C'est-à-dire avoir plusieurs êtres de lumière qui sont là pour vous défendre. Voilà. Alors, c'est pas pour cela qu'il faut aller se foutre de mettre le nez dans les zones les plus sombres. Parce que dites-vous bien que si vous avez un EDL qui vous est attribué, puis vous allez voir une division d'involuement, l'EDL il va pas pouvoir donner pour tout le monde. Hein. Il va pas pouvoir faire son travail complètement parce qu'il sera totalement débordé. Donc il ne faut pas, forcer la chose. Mais dites-vous bien que vous êtes accompagné et assisté. Voilà. Donc concernant l'espacement des points d'encodage, là lors de notre tournée, je ne faisais pas tout ça, mais ça s'est fait par la suite. C'est votre petite voix qui peut vous le dire. C'est-à-dire que grosso modo, vous demandez à la petite voix, est-ce que c'est bon là? Ok, c'est bon. Est-ce que je peux mettre plus loin? Ok. Mais bon, on va dire que la tournée 1, même si elle a bénéficié, on va dire, du début du commencement, par la même occasion, n'a pas bénéficié de l'expérience qui a été acquise au fur et à mesure de notre avancée. Donc, ce sont des choses qui se feront, on va dire, quand on repassera. Mais dites-vous bien qu'il y a... tu balances les cailloux où tu veux, suis ton feeling. Parce que c'est ta petite voix qui va te dire. Dis-toi bien qu'à chaque fois que tu lances un caillou avec l'état d'être-té qui va avec, eh bien, tu es sur le chemin. Et quand tu es sur le chemin, tu es forcément accompagné. Et si tu es accompagné, alors à ce moment-là, tu entendras ce qui t'est dit. Mais tu l'entendras par ton intuition, suis simplement. De toute façon, l'essentiel, comme on dit, est de participer. Et plus on participe, et plus on reçoit. Car ça, c'est encore une autre règle. C'est-à-dire que plus vous faites don de votre temps, et que vous faites des actions qui sont au bénéfice du tout, et plus vous accumulez, on va dire, une contrepartie dans l'éthérique. En clair, eh bien, plus vous allez avancer sur le chemin, et plus vous aurez facilité. Parce que des cadeaux, on va dire, vous auront été donnés pendant tous ces moments où vous avez offert. Il est évident que si tu fais 10, ben, tu recevras, on va dire, un équivalent 10. Si tu fais 100, tu auras un équivalent 100. Si tu fais 1000, tu auras un équivalent 1000. Alors après, il ne faudra pas dire, mais pourquoi lui il a 1000 et moi j'ai 10? C'est tout dépend de la quantité de temps, d'énergie, d'être-té que tu as mis dans ce que tu fais. Au service, bien sûr. Rappelez-vous que les règles du 5 des 6 D, c'est d'abord on donne. Et quand tu donnes, ça vide une partie de la bouteille qui permet de la re-remplir. Et donc, plus tu donnes, et plus tu es rempli de quelque chose d'autre. Or, que veux-tu que te donne la 5 des 6 D et les autres au-dessus? Sinon, des cadeaux de 5 des 6 D et de dimension supérieure. Donc forcément, tôt ou tard, plus tu œuvres, plus tu vas sentir que cette aide est importante. Et plus tu montres en fréquence, et plus, on va dire, ton compte bancaire te sera mis à disposition. Donc il est évident que plus tu vas œuvrer, et plus tu accéderas à la seule condition qui sera ta montée en fréquence, mais aussi la responsabilité à l'autre. Parce que il y a des gens qui montent en fréquence sans même le savoir. Le problème, c'est que comme ils sont relativement inconscients, ils n'ont aucune responsabilité. Donc, ils peuvent faire des conneries avec ce compte bancaire. Donc, il y a quand même deux conditions à tenir. Monter en fréquence 1 et 2, être en conscience. Voilà, Gino, et bonne continuation dans ton encodage. Une question de Dan Oz. Est-ce que les pierres encodées P2P essaimées dans la mer ont le même effet que celles essaimées dans l'eau douce? J'ai ouï dire que l'eau de mer amoindrissait les vertus de l'encodage comparativement à l'eau douce. Est-il véritablement important d'encoder les rivages et les bords de mer ou faut-il garder ses forces et ses munitions pour les fleuves, rivières et lacs? Alors ma réponse est claire. Gardez vos munitions pour effectivement les fleuves, les rivières et les lacs. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que les rivières, les lacs et tout ça vont dans la mer. Donc, la mer se fera encoder, mais imaginez, voyez la taille de la mer. C'est énorme. Alors, vaut mieux commencer petit, sachant que de toute façon, quelle que soit l'eau, elle ira à la mer. Donc, mettez toutes vos munitions dans les fleuves, les rivières et les lacs. Édifice religieux, une question de Christelle. Lors de ton passage, tu nous expliquais que dès votre entrée, toi et Corinne, dans les édifices religieux, vous faisiez attaquer par l'involution et qu'il était préférable de ne pas rester dans les lieux lors de l'encodage ou pour nous, lorsque nous déposons des pierres. Peux-tu développer alors ce qui se passe si on y va pour déposer et offrir notre feu du cœur à l'ange dans ces lieux? Nous sommes en première ligne de tir pour l'involution que nous dérange. Alors, là, il faut comprendre une chose. C'est que, d'abord, quand tu mets les lieux tu mets les pieds dans un lieu qui n'a pas été encodé du tout, c'est sûr que c'est sombre. Bien. Maintenant, quand tu vas dans un lieu qui a été encodé, là, ça change. Il a été encodé. Donc, généralement, la mémoire des murs, généralement, a été effacée. Alors, vous allez me dire, si on a encodé hier et qu'il va aujourd'hui, c'est évident que, il y aura une différence, mais elle sera pas trop notable. Si par contre, il va 2 mois plus tard, tu verras vraiment la différence. Pourquoi? Parce que, simplement, l'ange ou le DLCD12D aura vraiment fait le ménage. Et s'il fait le ménage, crois-tu qu'un involuant pourra rester dans l'église quand tous les murs, le sol et le plafond rayonnent la lumière? Non? Donc, grosso modo, Quand tu vas dans un lieu encodé, depuis suffisamment longtemps, puis tu t'adresses à l'être de lumière, tu peux lui offrir ton fond du cœur sans aucun problème, car de toute façon, tu ne te feras pas attaquer par les sons. Ça, c'est une chose. Ça, c'est quand tu es dans l'édifice religieux. Maintenant, la chose, c'est quand tu vas sortir. Parce que là, quand tu vas sortir, tu vas te retrouver dans un monde dit normal. Et là, eh ben, il faut s'attendre quand même que les autres, ils ont envie de bouffer une part du gâteau. Or, le problème, c'est que si tu es vraiment trop lumineux, ben, ils pourront pas te toucher. Et donc, la plus grande protection contre les sombres, contre les événements, c'est tout simplement d'augmenter sa fréquence et sa luminosité. C'est pas de mettre 1000 protections et de faire 3 gris-gris, enfin, ça va pour les débuts, ça aide. Parce que tout dépend de la taille des abonnements qui est en face de toi. Il est évident que si t'as des petits, et il y en a beaucoup, ça peut protéger. Mais si t'as un gros balèze en face de toi, tu peux sortir ton épée, si l'autre il est 50 fois plus gros que toi, tu vas lui servir éventuellement de cure-dent, quoi, avec ton épée, mais sans plus. Donc, il faut comprendre que quand on est dans l'édifice religieux, encodé depuis suffisamment longtemps, et que tu as bien monté ta rampe, et que t'as bien fait un bon fond du cœur avec l'être de la lumière, je veux dire que quand tu vas ressortir, généralement, tu ne devrais pas subir d'attaque. Parce que ils pourront pas te toucher, sinon s'ils te touchent, ils se désintègrent. Donc, voilà. Une question de Denise. Quelle attitude adopter lorsqu'on encode les églises, principalement lorsque ces édifices sont ouverts? Faut-il faire et se sauver, essayer d'entrer en contact avec l'ange du lieu, essayer les ressentis de la piste de lancement? Je suppose que c'est différent entre les édifices encodés par Corinne et toi et ceux qui ne sont pas encore. Tout à fait. C'est-à-dire que, pour l'instant, quand vous allez encoder on va dire moléculairement, les édifices religieux, vous n'êtes pas obligé d'aller dedans, déjà. C'est une première chose. Vous pouvez le faire de l'extérieur, vous mettez les pierres. Bien. Alors, il y a eu une petite coupure d'internet quelque part. Donc là, j'ai pas coupé au niveau du son, hein, de la bande. Mais bon, à vous éventuellement de vous reconnecter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous encodez, vous n'êtes pas obligé d'être à l'intérieur et d'y passer votre vie. Et dites-vous bien que votre feu du cœur, ça sera pipi-cha par rapport à tout ce qui est autour de vous. Donc, ne croyez pas qu'avec le feu du cœur, vous allez faire fuir les tonnes d'un volume qui est autour de vous, et que ça va couper tous les liens des égrégores et tout, etc. Croyez pas ça. Soyez clair que vous êtes tout petit par rapport à tout ce qu'il y a autour, donc faut pas traîner. Donc généralement, vaut mieux aller encoder à l'extérieur, vous déposez vos petits cailloux, n'y passez pas votre vie. Il suffit qu'il y ait quelques cailloux qui soient en contact avec la pierre, et le DLCD12D fera effectivement le nécessaire pour pouvoir diffuser le code. Donc ça, c'est une chose importante. Vous faites et vous tirez le plus vite possible. Voilà. Ça, c'est la précaution minimale. Donc, n'essayez pas de faire la rampe dans les trucs où ce n'est pas encodé. Parce que là, comme vous buvez déjà de l'eau encodée, vous êtes déjà repéré. Et si vous êtes déjà repéré et vous montez en fréquence, il est de fortes chances que vous ayez, on va dire, des attaques.